Good Morning Business, le grand entretien.
8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte, et on poursuit notre émission spéciale ce matin consacrée au jour d'après, hein, après l'attaque de ce week-end de l'Iran sur Israël. L'heure est désormais à la tentative de désescalade. L'ONU appelle à la retenue. Washington ne participera pas à une éventuelle riposte. Notre invité, c'est Bertrand Besancenot. Bonjour, vous êtes diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar, puis en Arabie Saoudite. Cette attaque de l'Iran sur Israël, ça n'a pas été une surprise. Elle a été annoncée plusieurs semaines à l'avance, plusieurs jours à l'avance. Elle était construite pour être connue, maîtrisée, anticipée.
Absolument. Si vous voulez, c'est effectivement à la fois un événement historique, parce que c'est la première fois que les Iraniens passent d'une attaque rhétorique habituelle contre Israël à une attaque sur le terrain. Et tout le monde, naturellement, enfin la dernière déclaration du G7 est très claire, tout le monde à la fois condamne et appelle à la retenue. Cela étant, comme vous l'avez dit, ce n'était pas réellement une surprise. On sait que depuis un certain temps, Netanyahou considère qu'à partir du moment où les Iraniens ne veulent pas d'un embrasement régional, eh bien, il a, si je puis dire, carte blanche pour essayer de faire avancer ses pions, et on le voit, que ce soit à Gaza, que ce soit les attaques de plus en plus en profondeur au Liban contre le Hezbollah, ou naturellement l'opération contre le consulat iranien à Damas. Alors, il table sur le fait, effectivement, que les Iraniens ne bougeront pas. En même temps, le problème pour Téhéran, c'est que ceci entraîne, à force de recevoir des coups sans réagir, ceci entraîne une forme de perte de crédibilité sur, justement, la capacité de Téhéran de diriger ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et on l'a vu, un certain nombre de ces proxys commencer à bouger, à se demander pourquoi Téhéran ne réagissait pas. Donc, la réaction de Téhéran, comme vous l'avez dit, a été en réalité une réaction qui a été à la fois préparée, calculée, mesuré en termes de moyens, et heureusement d'ailleurs l'impact en termes de victimes ou de destruction était très faible, et surtout symbolique, c'est-à-dire toute l'idée derrière cette opération, c'est d'essayer de restaurer la crédibilité de Téhéran sur sa capacité de dissuasion.
Et en même temps, ce qui permet à Israël, en disant on a éliminé 99% des attaques, eux aussi, de passer pour un vainqueur de l'attaque. On peut dire ce mot ou pas?
Alors, ce qui est clair, c'est si l'objectif était de restaurer la crédibilité de Téhéran, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient obtenu leur objectif, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, 99% apparemment ont été un échec, et qu'en plus, il est très probable que Netanyahou, de son côté, va vouloir réagir. Alors, quand on dit réagir, quelles sont les options? Il y a eu une réunion du cabinet israélien, on ne connaît pas les résultats, il y a différentes options, il n'est pas sûr que tout le monde soit d'accord au sein du gouvernement, d'ailleurs, mais en tout cas, on voit bien, il y a deux options possibles, soit s'attaquer directement à l'Iran, et là, ça peut être évidemment des installations militaires, mais ça peut être aussi des installations nucléaires, parce que naturellement, sur le plan symbolique, alors là, pour le coup, également, alors que l'essentiel de la communauté internationale condamne le programme nucléaire iranien, évidemment, ceci donnerait une forme de légitimité à cette action.
Il y a les infrastructures pétrolières également.
Il y a également, absolument. Simplement, vous avez entendu, le président Biden a dit très clairement que les États-Unis ne soutiendraient pas une action directe contre l'Iran. Donc, l'autre option, c'est effectivement...
Indirect.
C'est une fuite en avant, à la fois vis-à-vis du Hamas ou vis-à-vis du Hezbollah. C'est-à-dire, il peut prendre prétexte de cette opération-là pour dire, eh bien maintenant, nous allons à Rafah. Beaucoup de gens sont contre, mais après tout, après ce qui vient d'arriver, nous avons légitimité à le faire. En partant du principe qu'il y a eu une forme de solidarité occidentale, enfin, on l'a vu avec le G7, si ce n'est que, comme vous l'avez vu, le communiqué conjoint du G7 à la fois condamne l'attaque iranienne, mais en même temps appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Bien. L'autre option, c'est naturellement au Liban, c'est-à-dire effectivement une opération contre le Hezbollah. Mais c'est là qu'il y a un risque important, parce que on sait que les Iraniens, s'ils ne veulent pas un embrasement général, régional en tout cas, c'est parce qu'il y a une capacité dissuasive militaire américaine forte et qu'ils font attention. Et la deuxième raison, c'est que s'il y avait vraiment un embrasement avec une intervention directe du Hezbollah, eh bien, il y aurait quand même un grand risque pour l'Iran que la réponse israélienne contre le Hezbollah ferait perdre à Téhéran son joker dans la région, qui est précisément le Hezbollah.
Et du côté du Hamas, comment est reçu le message après ce week-end?
Je pense qu'ils se rendent compte que c'est une réponse plus symbolique que réelle. Je crois quand même que du côté du Hamas, ils savent que c'est une façon pour Téhéran de dire « nous réagissons », mais qu'en même temps, la réponse était tellement mesurée, annoncée, calculée et symbolique que ce n'est pas réellement un soutien et qu'au contraire, ça risque de donner un bon prétexte à Netanyahou pour lancer son opération sur Rafah.
La clé aujourd'hui, elle est en fait autour de Netanyahou, de la manière dont il peut réagir. Ben Aouda Denaï nous racontait ce matin qu'il avait interdit à l'ensemble de ses ministres de s'exprimer sur la question iranienne, pour lui pouvoir garder la main, mais qu'il pourrait faire... L'idée de cette riposte pourrait être dans des semaines, des mois, qu'il ne fallait pas forcément attendre quelque chose dans les jours qui viennent.
Disons qu'il maîtrise bien de ce point de vue-là ce qu'est la dissuasion. C'est-à-dire qu'effectivement... Si
je peux riposter un jour.
Exactement. Donc c'est une façon de dire, si vous pensez que vous m'avez dissuadé d'agir, eh bien vous vous trompez, mais je me réserve naturellement de le faire au moment où je le souhaiterai et de la façon à laquelle je le souhaite. Bon. Donc c'est ça la réponse de Netanyahou. Et c'est à la fois un élément d'inquiétude, parce qu'on sait que le Premier ministre est capable d'aller très loin, pour ne pas dire trop loin, pour survivre politiquement. Et donc, effectivement, là, vous avez un risque que la réponse soit une réponse qui va trop loin, trop forte, et qu'à ce moment-là, vous vous engagez une escalade dont personne ne veut en réalité. C'est vrai des États-Unis, c'est vrai de l'Iran... C'est vrai des pays du Golfe qui, eux, justement, craignent cet embrasement régional, alors que toute leur politique a été une politique d'apaisement pour essayer d'assurer leur développement économique, ce qu'on appelle les visions, la vision 2030 notamment du prince héritier saoudien. Et donc, si vous voulez, personne n'en veut, mais en même temps, de temps en temps, si quelqu'un, un des partenaires, un des protagonistes va trop loin, vous avez un risque d'escalade qui est évident.
Sachant que vous disiez personne n'en veut du côté des Émirats, mais dans les pays qui sont autour d'Israël et qui sont dans une situation économique compliquée, je pense au Liban, bien sûr la Syrie, mais aussi l'Égypte, eux aussi sont dans une logique de désescalade.
Ah oui, bien sûr, c'est leur intérêt. Le Liban, de toute façon, est dans une situation tellement difficile qu'il n'a aucun intérêt. Il subit déjà les coups parce que le Netanyahou a fait monter la pression sur le Hezbollah sans aller jusqu'à présent trop loin, mais effectivement, il a fait monter la pression en menant des opérations jusqu'à Baalbek, par exemple. Bon, la Jordanie, c'est certainement pas son intérêt de voir. C'est un pays très important, mais à la fois fragile. Et quant à l'Égypte, elle a suffisamment de problèmes économiques aujourd'hui pour ne pas souhaiter un embrasement ou alors même la venue chez elle de toute une population palestinienne dont on sait que quand on s'exile, on n'est pas du tout sûr de pouvoir revenir chez soi.
Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France au Qatar puis en Arabie Saoudite. Expliquez-nous ce jeu qu'il y a dans la convocation des ambassadeurs. Quand la France dit « je vais convoquer l'ambassadeur iranien », ça a été aussi le jeu avec la Russie ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? Quelle pression est mise sur les ambassadeurs?
Écoutez, ça paraît assez naturel. Lorsque vous condamnez publiquement, comme c'était le cas du G7, je crois que le président de la République a également lancé un tweet ce matin, eh bien, il est normal, si vous voulez, sur le plan diplomatique, de convoquer l'ambassadeur pour lui dire que l'on condamne et qu'on appelle à la retenue. Bon. Alors, les Iraniens répondront que, naturellement, eux-mêmes estiment qu'ils ont répondu un coup pour un coup et que, justement, ils s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de réplique. Je pense que le message est passé aussi à Israël, sous une autre forme, mais pour rappeler précisément la retenue également.
Du côté des Américains, on a vu Joe Biden clairement dire qu'il ne suivrait pas Israël s'il y avait une riposte. Joe Biden qui est poussé par Donald Trump à une certaine radicalité. Donald Trump qui lui dit que s'il avait été au pouvoir, jamais il n'y aurait eu ces attaques, ni la guerre en Ukraine, ni même le 7 octobre. Il se doit de rester mesuré, même s'il faut montrer une certaine autorité. Où est le curseur?
Non, disons que le président Biden a montré, depuis le début de ce conflit, une bonne capacité manœuvrière, parce qu'en envoyant son armada au large d'Israël et du Liban, il a joué justement ce rôle de dissuasion pour empêcher un embrasement régional. Et on l'a dit, si les Iraniens ne veulent pas justement de cet embrasement, c'est qu'ils savent très bien que le risque militaire d'affronter directement l'armada américaine est trop fort. Bon, c'est aussi l'administration Biden, il ne faut pas l'oublier, qui a quand même obtenu au point de départ les convois humanitaires, qui demande à ce qu'il n'y ait pas une opération sur Rafah, qui menace implicitement de sanctions si les Israéliens veulent aller trop loin, et qui annonce
sanctions,
publiquement...
Sanctions, ce sont les armes.
Ce sont les armes, évidemment. Mmh. Et qui annonce publiquement, naturellement, qu'une opération directe contre l'Iran ne sera pas soutenue. Donc, si vous voulez, l'administration Biden, en plus, évoque régulièrement la façon dont il faut réorganiser l'après-guerre dans la gestion de Gaza, dans la restauration d'une autorité palestinienne, tous ces éléments qui, naturellement, ne conviennent pas à M. Netanyahou, mais qui montrent que les Américains se sont réinvestis au Moyen-Orient et qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les principales clés. Reste à savoir, et vous l'avez dit vous-même, si M. Netanyahou les écoute totalement. Ouais. Bon, et on a vu jusqu'à présent qu'il était obligé de tenir compte des remarques de l'administration Biden, mais que ceci ne l'empêchait pas de mener des opérations et de suivre son propre programme.
Merci beaucoup Bertrand Besancenot d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.